Ok, ça a l'air de fonctionner. Salut Étienne. Donc on refait la
Salut
boucle.
Jean-Christophe.
Donc aujourd'hui j'avais envie d'interviewer Étienne sur l'homme plus que sur ses idées en fait. Savoir comment il a vécu ce confinement, cette espèce d'épreuve imposée. Qu'est-ce que ça a révélé chez toi? Enfin, je sais pas.
En fait, le confinement, il est très inégal d'une personne à l'autre, en fait, suivant l'endroit où tu vis d'habitude. Le confinement, il est cauchemardesque ou paradisiaque. Alors,
Toi, je sais que tu
vraiment,
habites dans un petit village, donc t'as
je
pu
suis même pas dans un village, je suis dans une maison à l'écart du village, je suis dans la cambrousse. Je suis vachement bien, moi, hein. Je suis dans une maison avec un jardin. Donc, je suis bien, hein. Et comme je suis à la retraite, j'ai pas la contrainte du travail, tout ça. Bon, je peux plus aller voir les amis, je peux plus militer politiquement, d'aller organiser des réunions, des conférences, mais j'en ai tellement fait pendant des années et des années que... Donc, en plus, je me suis confiné avec un de mes enfants qui est en télétravail et qui a ses propres enfants, donc je n'ai avec enfants et petits-enfants.
Oui.
Donc je suis vachement bien, moi, hein. Mais par contre, je me fais une image assez précise, parce que je m'informe, je me fais une image assez précise de ce que représente le confinement quand on est en ville et qu'on est traqué par les policiers pour des vétilles, c'est révoltant. Donc la révolte, elle vient pas, mais c'est comme depuis toujours, hein. Moi, depuis toujours, depuis 15 ans, je me bagarre, mais pour les autres, en fait, parce que je me plains pas pour moi. Personnellement, je vis bien, enfin...
Mais on t'a quand même beaucoup vu aussi là, tu t'es beaucoup impliqué dans des débats et tout ça, ça t'a pas vraiment changé ta vie en fait, à part le fait de moins voyager. Tu as quand même continué ton combat.
Oui. Oui. Et puis, bon, il y a des projets, là, des choses qui sont en train de grandir, sur lesquelles on travaille. Je travaille beaucoup sur la monnaie en ce moment. Ça change parce que j'étais beaucoup sur la démocratie, les institutions, le RIC, ces dernières années.
Tu as recontacté Monsieur de Ruder?
Ouais.
Ouais.
Ouais, Philippe, qui est un vieil ami et qui est un grand connaisseur de la monnaie. On va essayer d'imaginer des supports explicatifs de ce qu'est la monnaie, des enjeux de la monnaie et des alternatives monétaires. En fait, un gouvernement qui cesserait de renoncer à la réflexion monétaire, qui cesserait d'accepter de dépendre des caprices des banques centrales qui ont été rendues indépendantes, c'est-à-dire les maîtresses, c'est-à-dire les souveraines. Un gouvernement qui refuserait cette servitude et qui, un gouvernement qui déciderait de reprendre le contrôle de la création monétaire. Il se donnerait les moyens d'une politique impensable aujourd'hui, inimaginable. Tous les projets politiques, économiques, novateurs, servant le bien commun, bonnes idées, bons projets, tous se heurtent à « Mais monsieur, comment allez-vous financer tout ça ?» Tous nos projets de vie, d'amélioration de vie, de monde meilleur, projets écologiques, tout
Tout est
se heurte
basé
à la
là-dessus.
rareté des signes monétaires qui a été organisé par les usuriers. Les usuriers, c'est les humains qui se sont spécialisés sur la gestion de la monnaie, la création, la transmission, la mémorisation, l'enregistrement des encaisses, qui possède quoi en termes monétaires, et les gens qui se sont spécialisés dans la gestion de la monnaie, donc qui font profession d'acheter, de vendre, de prêter de la monnaie, créer, détruire de la monnaie, les banquiers, sont très vite, c'est une vieille affaire, hein, sont très vite devenus des usuriers, des gens qui font chanter la société depuis longtemps. Et on a plein de signes, quand on a plein de preuves historiques que c'est pas une bonne idée de confier la gestion de ce fluide vital pour nos échanges et donc vital pour notre vie tout entière, puisque on s'est spécialisé, on ne sait plus tout faire, on ne sait plus se nourrir, on ne sait plus construire sa maison, on ne sait plus subvenir à ses besoins vitaux. Donc on a besoin les uns des autres. On a vraiment vitalement besoin les uns des autres, donc on a besoin d'échanger. Et entre inconnus, on a besoin de la monnaie pour échanger. C'est vrai que dans une famille, on n'a pas besoin de monnaie. Entre gens qui se connaissent et qui s'aiment, on peut très bien vivre sans monnaie. Mais dès qu'on veut organiser une activité commune avec des inconnus, et c'est toute l'économie, ça, aujourd'hui, avec la taille comprise des sociétés, on a be un besoin vital de monnaie. Et abandonner la gestion de cette monnaie à des personnes privées, quelles qu'elles soient, hein, pas une question de personne, qui que ce soit à qui vous confierez cette mission-là, cette fonction-là, qui deviendra un professionnel de la monnaie, le pouvoir corrompt, ça lui donne trop de pouvoir, ça va en faire un monstre dangereux pour la société. Qui qu'il soit, c'est peu importe qui il est. C'est pas une question de personne. Il faut pas que ce soit une fonction privée. Il faut que ça reste une fonction publique sous contrôle citoyen. Et il faut que ce soit une fonction désintéressée. Il faut pas que ce soit un centre de profit. Il faut pas que ce soit une occasion de devenir plus riche que riche. Là, ça crée trop de risques
Ça partirait
de...
par la base, non pas
Donc c'est
par
oui,
en haut, mais par la base.
c'est à nous de penser la monnaie. Et alors c'est pour ça qu'il faut faire un travail d'éducation populaire, parce que pour l'instant les gens comprennent pas bien ce que c'est que la monnaie, ils comprennent même pas du tout, même les banquiers, hein, souvent enfin les banquiers, souvent les gens qui travaillent dans les banques savent pas que la banque crée l'argent. C'est des copains qui travaillent dans les banques, des très hautes fonctions, et qui se marrent de ma bagarre sur la création monétaire. Qui disent, quand il y a des questions, qui viennent me voir, qui disent, j'ai pas d'argent pour venir te voir, mais bon, je vais créer un peu de monnaie et comme ça je pourrais te rejoindre. Ils se moquent parce que pour eux, ils créent pas de monnaie. Ils savent pas, c'est pas, ça se passe pas au niveau des personnes qui accordent des crédits. C'est pas eux qui créent la monnaie. Et donc, pour que les gens, peut-être pas tous les gens, on n'arrivera jamais à ce que tous les gens soient au courant correctement, mais pour qu'un très grand nombre de personnes soient impliquées dans une réforme monétaire, il nous faudrait des outils d'éducation populaire bien faits qui fassent la connexion, le lien entre nos soucis quotidiens et nos soucis, les plus graves problèmes qu'on a, et les institutions monétaires. On se rend compte que toutes ces impossibilités d'améliorer les choses qui ne tiennent qu'à la difficulté de financer, qui ne tiennent qu'au manque de monnaie, toutes ces difficultés, en fait, sont très artificielles, non nécessaires, faciles à faire sauter. Très facile de créer de la monnaie. Évidemment, il ne faut pas en créer trop, mais tout le monde sait ça. Il ne faut pas en créer trop. On sait ça.
Ça serait peut-être
Mais,
un moyen
mais, mais.
non frontal de faire la révolution. non frontal.
De toute façon, un peuple qui va reprendre le contrôle de sa monnaie, il va engager la plus fondamentale des révolutions. Et il aura contre lui toutes les forces du ou des empires. Parce que là, les banques ont déjà pris le contrôle des sociétés humaines, hein, partout. Même dans les forces qui résistent vraiment à l'empire américain, les forces comme la Russie, la Chine, même eux, ils sont sous contrôle bancaire. Hein. La Chine, je connais pas bien le cas de la Chine, mais la
Comment tu
Russie, c'est
vois?
certain, la Russie et Poutine dépend des banquiers, il n'a pas repris le contrôle de la monnaie. J'aimerais bien le rencontrer pour ça d'ailleurs, pour en parler.
Moi aussi.
Parce que c'est un gars courageux qui serait peut-être capable de...
Il a pris un peu le contrôle du pétrole, apparemment.
Mais ouais, mais non, mais la monnaie, c'est plus important, hein.
Non, mais c'est
Voilà,
vrai qu'on a la.
je pose pas mal là-dessus en ce moment, ouais.
On a l'impression qu'il fait partie du jeu, mais sans faire partie du jeu, quoi. Qu'il a sa vision à lui propre.
Poutine?
Ouais.
Ouais. Mais bon, en même temps, il y a le danger avec Poutine qu'il y a avec tous les hommes forts, hein. Les hommes forts, d'une façon générale, homme ou femme, hein, Thatcher, quand Dolly Zarraï, Goldamer, enfin il y a quand même des affreuses, hein. Donc il y a aussi des affreuses chez les femmes. Mais tous les hommes ou les femmes fortes là, super dangereux, quoi, hein. En fait, progressivement ils sont de moins en moins contredits, et donc de plus en plus irritables à la contradiction et de plus en plus enferré dans les erreurs et violent avec les opposants.
Et justement, comment tu vois cet après immédiat là dans les jours qui viennent? Tu pressens des choses, tu je sais pas.
Bon, je pense que les gens, tout se passe comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton KO. Bien maintenant, là, ça commence, quoi.
Oui, c'est surtout
Le
avec ces
comportement de nos gouvernements est tellement irrationnel,
paradoxal.
tellement contraire à l'intérêt général, il faudrait qu'il soit complètement stupide, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être stupide comme ça. Donc, il y a autre chose. Et je sais pas quoi.
Il y a un.
Mais, donc, l'après quoi? L'après 11 mai, l'après déconfinement?
Ouais, les mois qui viennent, quoi.
Rien.
On sait pas trop, hein. Ouais, il y a une espèce de sidération
Non,
ambiante là, c'est.
mais j'ai pas besoin. Pas enfin bon.
Tu.
Depuis toujours, moi, j'ai pas besoin de savoir quel est l'avenir pour agir. Je ne sais pas quand les choses vont changer. Je ne sais pas quel va être le prétexte qui va faire que les gens vont se soulever. Mais je sais qu'il faut qu'on prépare ce moment. Et on l'a pas encore assez fait, à mon avis. Il faut qu'on prépare ce moment-là pour que l'après soit différent. Mais l'après 11 mai, c'est pas la révolution qui va se passer là. Pas du tout, du tout. Enfin, j'en sais rien. Peut-être. Peut-être. Et à ce moment-là, j'espère qu'il y a assez de constituants pour ensemencer le mouvement rapidement, comme ça a eu lieu avec les Gilets jaunes. Je sais pas.
Ne pas tomber dans la violence qui est un piège en fait. J'ai revu Gandhi il n'y a pas longtemps. Ça m'a arraché le cœur, en fait. Juste le pouvoir de dire non.
Il y a un peu une,
C'est assez
il y a un peu,
puissant.
il y a un mythe, hein. Alors, c'est utile, les mythes, mais bon, sur l'effet de la non-violence, l'efficacité de la non-violence, il y a un mythe entretenu par les puissants qui sont très contents que nous soyons non-violents. Je veux dire, ça leur va très bien qu'on soit non-violents. Et en fait, les changements obtenus par Gandhi en Inde ou par Martin Luther King aux États-Unis, ce que cache le mythe, c'est que derrière Gandhi, il y avait des militants violents, et derrière Martin Luther King, il y avait des militants violents, il y avait Les Black Panthers, ce qui faisait le boulot de d'ébranler le système de domination et le système cruel d'asservissement. Si tu veux, la non-violence, elle nous conduit à, c'est vachement astucieux, hein, elle nous conduit, et moi j'ai été formé comme ça, comme toi sans doute, on nous apprend à l'école, et c'est chrétien, hein, c'est une vieille affaire, ça fait 2000 ans. Ça, on nous apprend à renoncer à la violence, parce que la violence serait en soi la cause de nouvelles violences et finalement un cercle forcément vicieux, et que la seule solution, c'est aimez-vous les uns les autres, c'est la bonté, quel que soit l'état de violence ambiant. Mais ben moi, en vieillissant, je prends conscience de la propagande qui et de ceux qui ont intérêt à ce que cette propagande soit entretenue, que j'ai entretenue moi-même avec mes enfants. Donc c'est pas forcément tous ceux qui entretiennent cette propagande sont pas forcément mal intentionnés. J'ai moi-même formé mes élèves, mes enfants. J'ai toujours été non violent et c'était pas avec une mauvaise intention. Mais quand on réfléchit au pouvoir, aux abus de pouvoir et à l'émancipation des peuples par rapport aux abus de pouvoir, quand on voit l'histoire des révoltes humaines et la violence des riches, la violence des dominants pour que les dominés restent dominés en tuant les meneurs, en générant des bains de sang, des massacres, sans scrupules, sans arrière-pensée, à chaque fois les peuples qui résistent sont massacrés. Il y a un livre qui m'a bouleversé là-dessus, sur ce sujet-là. Il a fait un autre depuis. C'est celui-là, je ne sais pas si tu vois. C'est là, ça là. Comment la non-violence protège l'État, et c'est sur l'inefficacité des mouvements sociaux de Gelderlos. Et c'est bouleversant. Voilà, ça bouleverse, ça te remue. Tu dis, je quand même, ça remet en cause des vraies certitudes. J'ai plus de 60 ans et j'ai toujours dit dans toute ma vie, il vaut mieux ne pas être violent. Et ce que je fais, c'est non violent. Les ateliers constituants, c'est non violent.
Bien sûr.
Et je me prépare avec les ateliers à la violence des riches, que j'essaye de rendre la moins dangereuse possible en nous préoccupant d'être tellement nombreux que du point de vue des riches, ça servira à rien de résister. C'est toute la société qui veut ce changement. Et c'est comme ça que j'imagine qu'il n'y aura pas trop de violence. Mais je sais bien que les riches vont être très très violents pour garder leur richesse et nous garder asservis. Ils vont être très très violents. Voilà. Alors, est-ce qu'on interdit à la victime qui se fait violenter? Aujourd'hui, les pauvres se font violenter par les riches. Est-ce qu'on interdit à la victime de se défendre? Est-ce qu'on interdit à la victime la violence alors qu'on n'interdit pas au violeur? Ben non. Enfin, tu vois, il y a, dans la non-violence, il y a une espèce de complicité avec les violents. Les premiers, il y a la violence originale des dominants, des 1% qui dominent, 99%, et qui leur imposent l'arbitraire du monde capitaliste et l'injustice surtout à tous les coins de rue. Et cette violence-là qui est une violence première, et la violence des peuples qui résistent, quand on parle de violence, on parle que d'elle, on oublie de parler de la violence première, c'est plus que mal pensé, c'est pas honnête. En
On est
tout
vraiment
cas,
pris
c'est pas juste.
dans un étau parce que regarde si la rébellion est violente, l'État en profite pour imposer la
C'est vrai.
sécurité, quoi.
Ah ben oui, puis nous
Tu vois?
écraser, ils trouvent le prétexte à la. Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc faut
En
trouver
fait.
peut-être un truc. Je sais pas, l'anarchie, elle est où là au milieu? Ça m'intéresse. La réelle anarchie, hein. C'est pas celle qui est salie et conspuée. La vraie
Oui, bien
anarchie.
sûr.
Est-ce qu'elle se
Ah non, mais
situe
l'anarchie.
pas au milieu, justement?
Normalement, dans un monde anarchiste, il n'y a pas de violence, hein. On s'interdit précisément la domination. Mais comment faire pour instituer un monde qui renonce à la violence au milieu d'une planète où il y a des violences? Là, ce sont des faits. Il y a des violents, il y a des armées et qui demandent qu'à venir prendre la place de ceux qui résistent plus. Comment on fait pour instituer un monde non violent à l'intérieur d'un monde violent? C'est presque une aporie, quoi. C'est-à-dire que c'est le dilemme du prisonnier. C'est la course aux armements, elle s'explique parce que celui qui pratique pas la course aux armements, il se fait écraser par la violence injuste, cruelle, assumée de ceux qui sont les autres et qui pensent qu'à eux. Et si tu en fais abstraction, t'es mort. Voilà. Donc en fait, c'est la survie qui pousse les humains, pas forcément mauvais, mais à s'armer, à s'équiper pour survivre, quoi. Et tu es en Allemagne dans les années 30, juste avant l'accession d'Hitler au pouvoir. Donc Hitler était en train de préparer son accession au pouvoir. Il y avait des milices armées dans les rues. Et pendant ce temps, les jeunes gens en Allemagne, on avait marre de lutter contre le monde capitaliste, et fabriquaient, organisaient des communautés anarchistes, un peu comme on en a encore aujourd'hui, hein, des communautés. Ils voulaient un monde meilleur ici et maintenant. C'est formidable, hein, vraiment, et ça pétillait partout en Allemagne. Il y avait un foisonnement d'expérience démocratique, anarchiste, démocratique, c'est pareil pour moi, hein. C'est des organisations où on se méfie des pouvoirs, on essaye à tout prix d'éviter les abus de pouvoir. C'est ça le point commun entre démocratie et anarchie. Et ça foisonnait en 32, l'année d'avant l'accession d'Hitler au pouvoir. Et la première chose qu'Hitler a faite en arrivant au pouvoir, c'est de détruire physiquement toutes ces communautés, d'emprisonner tous ces gens, les mettre en prison. Ça en était terminé. Le problème, c'est que la fabrication, ce que je veux dire, la leçon que je tire de cette expérience-là, c'est que c'est magnifique, ces expériences anarchistes, elles sont enthousiasmantes, elles nous donnent, elles font la preuve, elles nous donnent de la force pour continuer à lutter, réfléchir, pour que ça arrive. Mais ça suffit pas à résister au fascisme. Ça suffit pas pour résister à un tyran qui veut prendre le pouvoir, qui se débarrassera des anarchistes avec une facilité, mais sans effort, quoi. Donc
Ben
ça
on
suffit pas à
revient à...
résister au fascisme. Il faudrait faire les deux. Et je pense que la mutation des humains en constituant, alors je sais bien que les Ça fait un moment déjà, hein, que ce que j'essaye de faire est moqué, discrédité par des gens qui croient qu'à la force, qui pensent que les riches sont forts et se laisseront pas faire, et il faut leur rentrer dans l'art, il faut les crabouiller. Et puis moi, avec mes ateliers constituants, je leur parais complètement naïf. À un point même qu'ils trouvent ça a assez duré, quoi, hein, un naïf comme ça, si ça se trouve, c'est un complice. Donc, ils m'en veulent de ne pas suivre leur chemin violent, comme si le chemin que je propose était théorique, dysfonctionnel, incapable de fonctionner, comme si c'était pas concret, alors que de mon point de vue, j'insiste, c'est la voie la plus concrète d'émancipation, ce à quoi je travaille. Concrètement, je m'en prends à la racine de de l'injustice sociale qui règne et de la domination des dominants sans partage. La racine commune, hein, que vous soyez de gauche, de droite, du centre ou dépolitisé complètement. ce qui permet au dominant de dominer aussi triomphalement, aussi indécemment, c'est notre démission du contrôle des pouvoirs. Notre confiance envers les pouvoirs, c'est elle qui est une naïveté. Crasse, quoi. Hein. Nous devrions enseigner à nos enfants, et c'est le rôle des ateliers constituants, nous devrions enseigner à nos enfants, à nos proches, mais à nos enfants, parce que c'est ça va prendre du temps, nous devrions leur apprendre à se méfier des pouvoirs, à ne pas accepter les pouvoirs sans contre-pouvoir, et à se sentir personnellement responsable de la réflexion sur les contre-pouvoirs, de l'organisation des contre-pouvoirs, sur le fontctionnement. C'est à nous de faire fonctionner les contre. Il faut travailler. Il faut qu'on fasse de la politique un peu, au moins, au niveau de la vie, des institutions.
Est-ce qu'il y a encore
pour qu'il n'y ait pas de pouvoir sans contre-pouvoir? Non, non, mais il y a
l'éducation
pas.
L'éducation civique à l'école, c'est moins important qu'avant, non? Ou c'est pareil? Parce que ça en fait partie.
Non, mais ça n'a
mais
rien
bon,
à voir.
Normalement.
L'éducation civique.
Ça devrait.
C'est-à-dire que si on y faisait les ateliers constituants, ça aurait tout
oui.
son sens. Mais moi, ce que j'ai vécu en éducation civique, c'est dérisoire, quoi. Hein. On fait de l'histoire. On fait de l'histoire un peu plus politique, l'histoire un peu des institutions. C'est des cours de morale, quoi. Hein. Les ateliers constituants, c'est pas des cours de morale. Nous sommes entre adultes. Et on pourrait le faire à l'école, hein, parce que les enfants savent très bien, oh, il faudrait 12-13 ans, quoi. Hein. Les enfants savent très bien réfléchir au bien commun et aux institutions. Hein.
Ça pourrait être.
Mais il faut le faire de façon
idée,
active,
ça.
Sans que ce soit. Oui, mais c'est pas l'éducation nationale qui est. C'est pas l'éducation nationale qui fera ça. L'éducation nationale, elle apprend aux enfants à obéir. Et c'est très subversif de faire des ateliers constituants, c'est extrêmement subversif. Ça crée des adultes politiques qui n'acceptent plus d'obéir. Alors, j'entends bien les partisans des méthodes fortes qui voudraient les castagner, quoi, qui voudraient aller au coup de feu, qui voudraient faire un coup d'État, qui voudraient prendre le pouvoir. Je les entends bien. Qui disent quand tu as fait un adulte politique et les ateliers constituants, des gens qui refusent d'accepter d'obéir et ils continuent à obéir puisqu'ils sont toujours aussi faibles, toujours aussi impuissants. Bon, ok, ils savent écrire des articles de constitution, mais ils sont toujours impuissants et ils continuent à subir le joug des usuriers, des esclavagistes qui nous gouvernent. Oui, mais évidemment, je suis pas fou, je vois bien ça. Mais c'est le même reproche que celui qui dirait à quelqu'un qui est en train de construire sa maison, qui a fait que les fondations, et qui se prend la pluie sur la figure, qui se prend les orages, qui se prend le froid, qui se caille, parce que sa maison, elle est juste en train d'être construite, quoi. Elle a les fondations, elle a commencé les murs. Et en bas des murs, les murs sont pas faits encore. Il y a pas de toit, il y a rien. C'est le début de la maison. Et on est en train de lui dire, mais c'est complètement idiot. Regarde, tu continues à prendre la pluie. Ouais, mais continue, arrête de râler et continue à construire les murs. Tu vas voir, le projet, c'est une maison qui va nous protéger de la pluie. Et là, sous prétexte que les ateliers constituants ne donnent pas tout de suite l'effet de protection contre les pouvoirs. Les partisans de la manière forte, nous intiment l'ordre de cesser ces enfantillages qui sont des mièvreries. Vraiment, les ateliers constituants, ça sert à rien. Je suis désolé, ils font pas du tout la démonstration, un, que ça sert à rien, et deux, que la méthode forte marcherait mieux. Parce que dans le rapport de force, puisque c'est ça qu'ils souhaitent, hein, les hommes forts, là, ceux qui sont partisans de la méthode forte, qui cherchent à ce qu'il y ait un coup d'État tout de suite, là, ils cherchent le rapport de force. Mais le rapport de force, qui a des forces? Qui a des armes? partie à un entraînement au maniement des armes. C'est pas le peuple, hein. Le peuple, il y a longtemps qu'on est désarmé. Il y a quelques chasseurs et puis quelques tireurs qui s'entraînent dans un club et qui ont quelques armes. Ça fait pas. Enfin, et en face, tu as les pouvoirs qui ont rodé un asservissement général en accumulant précisément tous les pouvoirs. Alors, les pouvoirs militaires, ils ont le contrôle de la police, hein, que la police, l'armée obéit à ces gens-là. Ils ont le contrôle de la police, de l'armée, ils ont le contrôle des juges, des gardiens de prison, de tous les rouages de la domination, économique, ils ont le contrôle de la monnaie, ils ont le contrôle de la culture, de la production cinématographique, ils ont le contrôle de l'édition, de la production des documents qui permettent de résister. Et puis surtout, ils ont le contrôle des armes. Et puis ils ont le contrôle de l'alimentation, de nos soins. Ils ont le contrôle de tout ce qui est vital pour nous. Et on va engager un rapport de force? Qui est naïf là? C'est
Ou
pas
alors
moi. Je suis désolé.
faut
Je
être 10
cherche quelque
millions
chose
dans
de...
la rue.
Non mais 10 millions.
Ça changerait peut-être quand même.
Attends, ça dépend de ce que tu projettes sur eux. Ça dépend du produit que tu vas leur jeter dessus. Ça dépend. Tu vas les faire. Si tu viens avec des canons à ultrasons qui leur brillent la tête, tu vois, ils vont tous rentrer. Ils vont partir comme des animaux apeurés parce qu'ils ont la tête qui vrille. Enfin,
Oui, c'est énorme.
les moyens de d'écrasement n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait il y a un siècle. Ils sont totalement démultipliés
Oui, puis ça s'accélère,
avec des
surtout.
émetteurs d'ondes. Comme ils en foutent partout là en ce moment, hein, qui sont des armes militaires. Tu montes le volume, tu nous mets tout, tu nous rends tous incapables de faire quoi que ce soit. Et on voudrait engager un rapport de force, mais c'est déconnant. Enfin, ça
C'est
me
pour
paraît
ça.
déconnant. Et donc, les ateliers constituants me paraissent un. Moi, je cherche quelque chose de différent du rapport de force parce que je trouve que c'est trop inégal, on n'a aucune chance dans le rapport de force. Déjà, quand on avait plus de chance, on se faisait écraser à tous les coups, à tous les coups, tous. Même les hommes forts qui ont pris le pouvoir, alors, t'as les Allemands, t'as Hitler qui a pris le pouvoir. Okay, il a pris le pouvoir, il l'a pris. Et alors, 10 ans plus tard, ils sont contents, les Allemands, 10 ou 15 ans, ils ont leur pays qui est ravagé, bombardé de partout, tout est détruit. C'était bien de prendre le pouvoir, ben, ça n'a pas mieux marché d'avoir réussi à prendre le pouvoir, quoi. C'est pas ça, c'est pas la prise de pouvoir qui va.
Quand je te
Pourtant,
parlais,
Hitler, il promettait, hein, de reprendre le pouvoir à la finance internationale, reprendre le pouvoir aux banques. Il a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir aux banques, rien du tout. Il a fait dévaster les pays voisins et le sien. Tu vois, tu fais le bilan du rapport de force, je le trouve merdique. Désolé, je trouve merdique que vous pouvez prendre d'autres coups d'État, et je trouve que les peuples sont pas mieux traités là où il y a eu des coups d'État. Ça marche pas bien, ça marche pas bien du tout. Alors que l'idée d'une prise de conscience de l'humanité. Je ne parle pas d'un pays ou d'un autre, là. Je parle de l'humanité. Une prise de conscience de notre rôle personnel, individuel, dans la nécessaire méfiance. Nous avons tendance à faire confiance parce que c'est plus confortable. Nous avons envie de pouvoir faire confiance dans nos représentants parce que c'est confortable. C'est quand même moins prise de chou, quoi. Hein. Voilà, ça va quand même être mieux. On leur fait confiance et puis ils vont s'occuper de tout. Ouais, mais après 200 ans d'échec du gouvernement représentatif, après 200 ans de tromperie, trahison, de guerre de plus en plus monstrueuse, des guerres qui deviennent des guerres géantes, des massacres par millions. Ça va quoi, ça marche pas bien la confiance envers les pouvoirs. Donc profiter de cette hyperconnexion que nous donne l'Internet, qui peut nous permettre de devenir comme un cerveau collectif, c'est-à-dire que chacun d'entre nous serait comme un neurone d'un cerveau qui enfin prend conscience de la dangerosité des pouvoirs, et donc
C'est
la
comme
nécessaire
ça.
méfiance, voilà,
C'est
se
comme ça
paraît plus
que.
malin, quoi.
C'est comme ça que je voyais le truc quand je te parlais l'autre jour de gouvernement provisoire. En fait, c'est pas le gouvernement, c'est pas le mot juste, mais trouver une espèce de plateforme où bah, ça peut commencer par la monnaie, ensuite les lois peuvent suivre, et si tu as 1, 2, 3, 4, 5 millions de Français qui suivent ces lois-là, qui rentrent dans ce processus monétaire nouveau, est-ce que, enfin c'est peut-être utopique hein, ce que je te dis, mais
Ah non, mais
est-ce
processus monétaire nouveau, les banques vont faire envoyer la gendarmerie.
Bah
Toutes les
ça fait
monnaies
rien.
locales. Ah non, mais bon, ça va, les gens vont finir en prison. En prison.
Ils iront en
Fin d'expérience.
prison. Ouais,
Prison,
ouais.
fin d'expérience. Ouais, prison. Fausse monnaie, prison. Et si tu veux, toutes les expériences de monnaie locale qui ont formidablement marché, hein, à Vorgles, Vorgl, avec un tréma sur le haut, à Vorgles, à Schwanenkirchen. Donc, il y a vraiment des expériences de monnaie locale où la puissance publique, la mairie, c'est au niveau des communes, la puissance publique se réapproprie la création monétaire, elle fait disparaître le chômage dans les semaines qui suivent. Le chômage disparaît, la prospérité revient. Ces expériences prennent fin parce que l'autorité centrale, donc la banque centrale, c'est-à-dire les usuriers, viennent et interdisent l'expérience. Disant, ça suffit, vous arrêtez. Vous arrêtez sinon vous allez en prison. Bon, c'est pas la preuve que l'expérience est mauvaise, ne fonctionne pas. C'est la preuve que ça va être plus compliqué que de décider, bon, allez, on le fait. Non, on ne peut pas le faire parce que les usuriers nous en empêchent. Ils ont pris le pouvoir et ils ne nous le rendront pas. Donc ce qu'on doit faire, c'est être nombreux.
Oui, mais moi je suis
Et
persuadé que si on est
5
5
millions très
millions,
déterminés
ben oui.
sur la même chose, ça peut marcher. En France, ça peut marcher. Mais il faut comprendre que ce qui se passe en France, et bien sûr, comme partout, c'est surveillé par l'Empire. Et regardez ce qu'ils font aux peuples qui veulent s'émanciper, regardez ce que les Américains ont fait aux Vietnamiens. Les Vietnamiens voulaient vivre en un pays communiste. Ils voulaient plus le capitalisme. Ils voulaient devenir communistes. Et ils le voulaient, bon voilà. Et donc ils se sont fait châtier, ils se sont fait dévaster. Pourquoi on ne dévasterait pas? Les Américains ont déjà bombardé la France, nauséam, hein, et ils recommenceront. Donc, je suis pas sûr qu'un pays seul puisse s'émanciper aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est pour ça que je cherche à développer une mutation anthropologique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit l'humanité, les hommes. Il faudrait que ce soit, pour que ça marche, il faudrait que ce soit une idée dont l'heure est venue et dont les humains partout sur Terre, donc il faut des traductions, et qu'on se concentre sur cette idée que c'est à nous, c'est aux représentés d'écrire les règles de la représentation. Cette idée simple. C'est simple, ça. C'est pas à nos représentants, c'est pas à nos élus d'écrire les règles de la représentation. Et de la monnaie, et des médias, etc. Hein, disons des règles de représentation en général. C'est pas à des représentants de faire ça. C'est à nous de décider ça. Nous, les simples humains qui consentent à être représentés, mais qui veulent écrire le contrat de travail des représentants. Et cette idée-là, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir.
Attends, excuse-moi, il y a une dame qui vient me voir. Bouge pas, bouge pas. Excuse-moi. Je fais une émission là. Excuse-moi, je te joins plus tard. Merci. On m'apporte des œufs.
Super.
Excuse-moi.
Cette règle-là, cette règle simple, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est vrai que si on est une poignée, qu'on est quelques centaines de milliers à défendre cette idée, ça changera rien. suis d'accord avec ça. Mais si cette centaine de milliers se met en tête, les semaines, d'en parler à quelqu'un, la semaine d'ensuite, d'en parler à quelqu'un d'autre, de façon à ce que nous soyons de plus en plus nombreux. C'est-à-dire, si cette centaine de milliers de départs ne renoncent pas à la contagion pour que nous soyons, et arrivent à se concentrer sur ce que cette idée simple devienne universelle,
mais ça bouge,
ça,
tu le sais.
Ça va marcher, ça va marcher.
Tu le sais, ça bouge beaucoup. J'ai envie de te parler d'une dame, Guylaine Langto, je ne sais pas si tu connais cette femme,
pas.
Qui a décidé d'abandonner sa citoyenneté pour devenir souveraine de son âme, comme elle dit. Elle a fait de la prison pour ça. Elle a abandonné son nom, en fait, son prénom, ses cartes bleues. Elle a tout abandonné, elle a refusé toute aide de l'État, et elle a choisi l'autonomie, et elle vit dans une forêt aujourd'hui. C'est un cas un peu... Elle a écrit des bouquins qui ont très très bien marché, donc je pense qu'elle a un petit peu d'argent derrière elle. Et si tu veux, elle a refusé.
Refusé quoi?
Elle a refusé la citoyenneté. Le nom, le flicage, l'acte de naissance. C'est étonnant,
attends,
hein?
La citoyenneté, c'est pas que le flicage. Enfin, on s'est jeté le bébé avec l'eau du bain, parce que la citoyenneté, ça peut être le pire et le meilleur. Ça dépend de la façon dont elle a été instituée. Je rappelle qu'avant que nous ne créions des cités, des villages, hein, avant que nous ne décidions de vivre ensemble en groupe, ce qu'on peut imaginer, bon, on n'en sait rien parce qu'il n'y a personne pour l'écrire, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que nous vivions en bande, en famille, quoi, comme les animaux. Donc en toute petite bande, toujours apeurés, comme le sont les animaux, quoi, hein, toujours, à part les gros animaux qui ont peur de personne, mais la plupart des animaux qui sont plus petits et qui ont des prédateurs ont toujours peur qu'il y ait un prédateur. Et c'est pour nous protéger contre des prédateurs qu'on a organisé les tours de garde, on a construit des fortifications, des tours de garde, et j'ai besoin de toi pour que tu veilles pendant que je dorme, et toi tu auras besoin de moi parce que je vais veiller pendant que tu dors. Et donc la citoyenneté, c'est une solidarité qui fait qu'on a moins peur de l'adversité. Je répète, la citoyenneté, c'est l'organisation d'un groupe humain qui se débrouille pour résister à l'adversité par des solidarités, de l'entraide. La citoyenneté, c'est un mot magnifique. Enfin, c'est pas quoi flicage. Le flicage, attends, si les pouvoirs nous fliquent, c'est parce que nous avons renoncé à les fliquer nous. C'est parce que nous sommes des paresseux qui refusons de travailler pour surveiller nos représentants, que nos représentants nous surveillent. Et si on les surveillait, nous, comme il faut, ils nous surveilleraient pas du tout. Ils nous fliqueraient pas. Tu comprends? C'est pas le mot citoyenneté en soi.
Oui, non,
mauvais.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a refusé d'être un numéro, en fait, et de...
Bon.
Voilà. Elle a refusé.
C'est pas parce qu'on a un numéro.
Ce système. Cette femme est assez incroyable.
Alors, c'est incroyable, ça doit sûrement forcer le respect sur plein de sujets, parce que elle a dû renoncer à beaucoup de confort moderne.
Ah, oui,
Et pour une espèce, ça ressemble à un idéal. A priori, c'est respectable, hein, je dis c'est respectable. Mais je te rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est que les petites communautés anarchistes allemandes, le peuple allemand était extrêmement cultivé, hein. Déjà à l'époque, hein, politiquement, grosse connaissance politique, ils sont allés faire un peu ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'ils sont allés vivre différemment, créer des mondes meilleurs différemment, en abandonnant tout leur confort. Et je répète, ils se sont fait écraser par Hitler. Ça n'a pas permis de résister au fascisme, et quand le fascisme est arrivé, il les a écrabouillés. Donc c'est insuffisant, ça, tu vois.
Je sais pas pourquoi je te parlais de ça, mais le côté émancipation, certainement.
Oui, mais l'émancipation individuelle, c'est pas...
Non, non, mais je suis d'accord.
C'est probablement normal que dans une société qui devient si individualiste, où les médias Et donc toute l'idéologie véhiculée par les médias nous pousse à être des consommateurs donc très matérialistes et très individualistes. C'est normal qu'on soit séduit par des trajectoires individuelles d'émancipation. Non, c'est bon,
Non, mais
pas que c'est inintéressant, mais je vois pas comment on va
dans cette non, mais dans cette
s'émanciper
émancipation
avec des résistances individuelles.
dans cette émancipation individuelle, il y a aussi du partage, il y a aussi de l'entraide, il y a aussi des valeurs comme ça qui naissent naturellement, mais
Oui.
sans argent, peut-être. Voilà, c'est non, c'est juste pour essayer d'ouvrir un peu les consciences,
Non,
quoi.
mais l'argent, dépend comment on vit. C'est sûr que si on vit comme une bête sauvage dans une forêt, on n'a plus besoin d'argent puisqu'on prend des racines. Mais bon, on est totalement irréaliste. D'abord, c'est pas sexy. Les gens, ils vont pas vouloir. Ils vont dire, ton projet, il m'emmerde. J'en veux pas. Je veux pas aller bouffer du gland cru. J'en veux pas de ton projet. Voilà. Donc, c'est facile à prévoir, quoi. Les gens vont pas vouloir de ça. Mais même indépendamment de ça, même si, en imaginant qu'on aime, on va jamais arriver à simplifier. Ben, il faudrait arriver à redevenir tous, autonomes. C'est-à-dire on a plus, on fabrique nous-mêmes les normes auxquelles on consent à obéir. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus d'hétéronomie. Il y a plus de, on a plus personne au-dessus de nous qui nous impose quoi que ce soit. Et là, on n'a plus besoin de monnaie parce qu'on sait tout faire. On sait faire tout ce dont on a besoin. J'ai juste besoin d'un bout de terre, un bout de terre et du gibier, et je vais me débrouiller. J'ai pas besoin d'échanger, donc j'ai pas besoin de monnaie. Éventuellement, je fais des petites bandes de type famille élargie, et là encore, j'ai toujours pas besoin de monnaie parce qu'on se donne. T'as besoin de quelque chose, je te connais, je te donne. Parce que je sais que quand j'aurai besoin, tu m'aideras. On se connaît, je peux compter sur l'entraide, et donc je donne. Et je te rappelle qu'on est 7 milliards. Comment on fait à 7 milliards? 7 milliards, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se connaissent pas du tout. Comment on fait sans monnaie? J'arrive à imaginer la monnaie entre les gens qui se connaissent, qui s'aiment, qui s'apprécient, qui se font confiance. Mais dès qu'on est avec des inconnus, c'est le cas le plus fréquent, quoi. Hein. C'est le cas bateau, le cas banal. Je vois pas comment on peut faire pour se passer de monnaie.
Oui, non, mais ça, c'est un cas
Sauf à
particulier,
renoncer à tout.
c'est un cas extrême, mais il doit y avoir une place au milieu, quoi. C'est-à-dire que
Sans
l'argent,
monnaie, je sais pas.
non, non, mais avec monnaie, peut-être, sûrement, mais que la monnaie soit vraiment un outil comme elle l'était au départ. Et des gens extrêmes comme ça nous amènent à une vision telle qu'on peut revoir la vision qu'on a de l'argent. Je ne suis pas certain qu'un Africain ait la même vision qu'un Américain de l'argent, par exemple.
Et un Africain, un Américain, il faut surtout voir s'il vit dans une toute petite communauté de gens qu'il connaît, qu'il aime, qu'il apprécie. Et c'est ça qui fait qu'il n'a pas besoin de monnaie. Parce que les gens là se donnent. Ils se vendent pas, ils n'achètent pas, ils donnent, ils reçoivent. Quand ton enfant a besoin de quelque chose, tu lui vends pas ce dont il a besoin, tu lui donnes. Quand ton père a besoin de quelque chose, tu lui vends pas ce que tu lui donnes, tu lui donnes. Tu vois, dans la famille, c'est un bon exemple de l'anarchie, quoi. Enfin, comme la rêvent les anarchistes, c'est on compte pas, on donne. Mais ça marche avec des gens en qui on a confiance. Alors, on arrivera peut-être à un système dans lequel on arrive à avoir confiance dans les inconnus. J'arrive à rêver de ça. Ça paraît pas impossible. Que on soit arrivé à pacifier nos sociétés d'une façon telle qu'on n'ait plus peur des inconnus. Et que donc on se mette à donner parce que on sait que n'importe quel inconnu qui va voir qu'on est dans la mouise va nous donner lui aussi. Et si on sait que ça marche comme ça, de façon générale, il y a peut-être une société possible, sans monnaie. Mais bon sang, on en est foutrement loin, hein. Il va falloir trouver les étapes intermédiaires.
Ouais, mais c'est ça. Mais il faut trouver une étape là pour se sortir de ce joug là.
Ben, le contrôle populaire de la monnaie, on regarde la monnaie parce qu'on n'en est pas encore à cette société de rêve là, mais le contrôle populaire de la création monétaire, de l'affectation monétaire, de l'investissement monétaire, du crédit monétaire, le contrôle populaire de ça, donc reprendre aux usuriers privés, cupides, qui sont des centres de profit, reprendre la monnaie et la rendre au peuple, ça fait quand même, ça fera une monnaie très différente, hein. On va moins en manquer, hein.
Oui, on peut taxer les machines aussi. Ça serait pas mal.
Ouais. Ah, c'est pas les machines que tu veux taxer, c'est les propriétaires des machines,
Oui, enfin les machines. Le travail que font les
ouais.
machines.
Taxer le capital, ouais, c'est une vieille idée, bien sûr. Mais si
Évidemment.
tu veux, pourquoi? Moi, je cherche la cause. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, depuis 200 ans, pourquoi on n'arrive pas à taxer le capital comme il faut?
Parce
Parce
qu'ils
que
ont peur de la faire.
les pouvoirs, ceux qui ont le pouvoir de faire ça, qui ne le font pas, c'est qu'ils doivent tout aux capitalistes. Ils doivent leur élection, donc ils doivent leur pouvoir, et le renouvellement de leur pouvoir à la prochaine élection, ils le doivent aux capitalistes. Ils ne doivent pas leur pouvoir aux électeurs. Et si c'est pas toi qui votes pour eux, ce sera un autre. Enfin, je veux dire, ceux qui votent aux élections, l'immense majorité, c'est les gens qui regardent la télé. Donc ou qui lisent les journaux, qui font ce qu'on leur dit de faire. Ils vont voter pour le notable. Et donc les représentants devant tout aux plus riches, ben, ils servent les intérêts des plus riches. Donc, pas pourquoi on n'arrive pas à avoir de taxes sur les machines, taxes sur le capital.
Oui,
Il faut prendre les choses à la racine.
ça réglerait pas mal de trucs. Grand chef, une conclusion. Je vais pas te prendre tout ton temps. Tu vois, on
C'est
s'est
gentil.
éloigné de l'intime Étienne, hein, mais quoique ton intimité est faite aussi
Ça
de ce que tu fais.
aucun intérêt, mon intimité. Ah, fou.
Si c'est un intérêt, comment tu vis les émotions par rapport à tout ce qui se passe? C'est intéressant. Mais je pense que t'as pas trop le temps de penser à tout ça.
Ouais, puis ça paraît pas, ça me paraît pas intéressant.
Te paraît pas intéressant.
Mon intimité, non.
Pourtant, Jésus a dit que Dieu était en nous, tous.
Oh purée.
Donc,
Tu veux dire, tu parles du personnage conceptuel.
Travaille un peu ta divinité intérieure, Étienne, s'il te plaît.
Y a un truc qui
Conceptuel, ouais.
bip. Il y a un truc qui bip, je sais pas ce que c'est. Tu entends le
Sais
truc qui
pas.
bip?
C'est Jésus.
Tu entends un truc qui bip aussi ou je sais pas ce que c'est.
Ouais, j'entends un petit bruit bizarre.
Ouais,
Comme
voilà.
si quelqu'un chantait ou soufflait.
C'est quelqu'un qui a besoin de moi sur Discord, donc.
Ok. Merci.
Merci à toi.
Merci, Monsieur Étienne. On
Merci
n'a pas
Jean-Christophe.
répondu du coup aux personnes. Je suis désolé.
Il y a des
Mais
gens
voilà,
qui
je.
commentent là, c'est ça? C'est en live
Oui,
là, ça?
tu les vois pas?
Je vois pas du tout.
Pourtant, je le vois apparaître. Ben, je maîtrise pas
Ah oui,
bien le
voilà, je vois des
truc.
choses.
Tu te fais
Ah
engueuler un
oui, il y a
peu.
plein de questions là. Ah, il y a plein de questions. Ça recommence.
Discord qui
C'est
t'appelle.
Discord.
Je sais pas si t'as envie si t'as le temps ou envie de répondre, vas-y, hein.
Sur Francis Cousin, je vois quelqu'un qui parle de Francis Cousin. Je vais dire un mot de ça. J'ai beaucoup écouté Francis Cousin, un petit peu moins ces temps-ci, mais et je trouve des tas de choses très intéressantes dans ce qu'il dit. Vraiment des choses étonnantes sur la pensée de Marx, Engels, complètement méconnue, je sais pas tout ça. Mais quelque chose vraiment me dérange parce que Francis Cousin, il dit de moi que je suis. Alors, j'ai entendu dire des trucs invraisemblables sur le. Comme si le RIC était le pire ennemi du peuple, et donc moi avec. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup en écoutant Francis Cousin, c'est que je trouve quelqu'un qui est beaucoup plus radical que moi. Moi qui me croyais si radical, je trouve quelqu'un qui est encore plus radical, mais radical avec une force. Quelqu'un qui dit à bas l'État, à bas la monnaie, à bas la liberté, à bas l'individu. Alors, ça, c'est vraiment radical. Pour arriver à entendre ça, bon, faut faire le pari que la personne est de bonne foi, qu'il a rentré dans sa pensée, quoi. Et ça m'intéresse de voir, d'analyser le désarroi de quelqu'un qui tombe sur quelqu'un de beaucoup plus radical que lui, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, en me voyant, moi qui suis tellement plus radical qu'eux, ils doivent avoir le même genre de désarroi. Et ça m'intéresse, parce que c'est pas fréquent pour moi de trouver des gens aussi radicaux. Ça m'intéresse de voir, ce que ça chamboule en moi, en quoi ça me gêne et pourquoi j'y résiste. Mais moi, je cherche des solutions pratiques à l'injustice et pratiques, des choses qui marchent. Le rapport de force, comme on en parlait tout à l'heure, je crois que ça n'arrivera pas. On n'a pas assez de force pour engager un rapport de force sans risque d'y laisser notre peau. Et là, une fois qu'on a laissé notre peau, ben, tout est fini, c'est terminé, c'est trop tard. Voilà, il fallait trouver quelque chose de plus malin. Et donc, je me dis, peut-être il y a chez Francis Cousin quelque chose qui me manque pour imaginer une émancipation générale. Mais je ne trouve pas dans ce que dit Francis de choses à faire. On a à attendre qu'advienne l'insurrection générale qui fera tout sauter. Mais il n'y a pas de consigne, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de réflexion sur qu'est-ce qu'on devrait faire ici et maintenant. Je trouve pas ça. Et donc, je trouve pas ça beaucoup plus pratique, pratico-pratique que ce que je fais moi. Hein. Et pas, je vois pas pourquoi. C'est assez beau, hein, la société que Francis évoque, la société, alors je vais peut-être me tromper dans les termes, mais de ce que j'en ai compris, retenu. Il décrit une société d'avant la marchandise, d'avant l'échange marchand, ce qu'il appelle la mer de marchandes. Il décrit une société de l'être, donc une société de l'être avant l'avoir, dans les sociétés primitives, les premiers hommes, une société de l'être dans laquelle il n'y avait donc pas de propriété, il n'y avait pas de possession, on partageait tout, quoi. Hein. Et c'est vraiment séduisant. Moi, j'aime bien l'écouter quand il parle de cette société perdue d'une certaine façon. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce qu'il souhaite ou qu'est-ce qu'il annonce? Que ça va revenir? Nous allons revenir à des temps. Nous allons revenir à ces temps anciens. Nous allons revenir à une société de l'être où il n'y a plus d'avoir où nous ne sommes plus préoccupés de la possession et de l'accumulation, nous ne sommes même plus préoccupés de notre individu, nous ne sommes même plus préoccupés de notre liberté, nous sommes, du verbe être, nous sommes avec les autres dans le grand tout de la création. Est-ce qu'il pense vraiment que ça va revenir? Qu'est-ce qu'il propose? Quelle est la société qu'il souhaite? Et ça, je le trouve pas. Je trouve un discours assez circulaire, très complexe, compliqué, enfin, difficile d'entrer dedans, parce que c'est tout un vocabulaire qu'il faut apprivoiser pour, mais qui revient en fait, qui est assez, donc c'est circulaire, ça revient. Mais je vois pas de porte de sortie du labyrinthe dans Francis Cousin. Et donc, on a déjà eu un échange, un long échange, où j'ai vraiment essayé de comprendre, et dans ma tête, c'était qu'un premier, parce que ce franc, ça durait 2 ou 3 heures, et c'était très insuffisant. J'avais pas obtenu les réponses à mes questions. Peut-être que je les ai mal formulées. Donc sur Francis Cousin, je suis en attente. Je suspends mon jugement. Il faut sûrement qu'on en reparle, qu'on se reparle. Je trouve que ces accusations à mon sujet sont fantaisistes, marrantes, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment des gens qui disent de moi des horreurs, comme si j'avais le pouvoir de faire quoi que ce soit, quoi. Alors, je suis dans mon bureau, j'ai pas de parti, pas d'argent, rien. C'est sur moi le grand danger pour le peuple. C'est quand même une blague. Et je trouve que les reproches qu'il me fait sont pour la plupart basés sur des malentendus. Et puis, propose pas quelque chose de mieux, je trouve. Alors, s'il y en a qui veulent bien m'aider à comprendre ce que j'ai pas encore compris, cousin, ça m'intéresse. Bon, moi, je suis en train de bosser sur la monnaie.
Un petit débat, ça serait bien.
Ouais, je serais d'accord, mais je pense que c'est Francis qui s'intéresse pas du tout.
Ah ouais?
Enfin, j'ai l'impression, alors je sais pas si ce serait encore le cas une prochaine fois, mais de notre échange, de notre premier échange, je garde une espèce d'impression d'asymétrie avec comme un professeur, tu vois, Francis, c'était comme un professeur qui va m'expliquer ce que j'ai pas compris, puis je cherche pas du tout à comprendre ma représentation à moi du réel. Parce que c'est important de comprendre la représentation de l'autre pour ensuite échanger. Si t'es que sur ta représentation et que tu la martèles sans écouter finalement l'autre, bah, tu rates ce qu'on peut gagner à un échange. Alors, c'est pas tous les coups, mais. Donc, j'ai
Non, si
l'impression
t'as
que c'était comme un
si
premier,
t'as
un
un,
pre...
si t'as un tuyau pour le joindre, j'essaierai de le joindre. J'aimerais bien
je sais pas si...
pacifier ce débat.
Oui, faut moi je tu sais tous ces gens qui me tapent dessus, je leur renvoie pas leur détestation, hein. Pour
Non,
moi
je
c'est des
sais.
malentendus, je vois pas bien comment on peut me détester. Donc des malentendus et en général, il n'y a pas d'exception, je ne renvoie pas la balle avec la même force et je n'en rajoute pas sur les insultes, les calomnies. Je laisse tomber, je dis bon, on en reparlera plus tard quand ça sera calmé. Donc la guerre, elle vient pas de mon côté, hein. Pour faire la guerre, faut être deux, quoi. Hein. S'il y en a un qui refuse de faire la guerre, ben c'est que c'est pas une guerre, c'est l'écrasement d'un fait par un fort, mais bon, c'est pas la guerre. Enfin, moi, je fais pas la guerre à ceux qui sont dans la résistance au pouvoir, parce que Francis résiste à la domination. Hein. Francis Cousin, il résiste à la domination, un résistant, à sa manière. Bon. Oui, peut-être qu'il y aura un deuxième
Ouais,
entretien.
ce
Faudrait que
serait
je bon, ça prend beaucoup
intéressant.
de temps quand même à travailler parce qu'il produit beaucoup. C'est difficile à lire, hein, difficile à écouter. Il faut vraiment travailler, le crayon à la main, prendre des notes.
Tu sais faire.
Ouais, mais bon, j'ai plein d'autres choses à faire, beaucoup beaucoup de choses à
Ben
faire
oui,
aussi. Hein.
j'imagine. Ouais. Un retraité
Mais ça,
heureux.
c'était pour n'a-t-il rien appris? N'a-t-il rien appris auprès de Francis Cousin? Si, on apprend plein de choses avec Francis Cousin, mais ça conduit pas à être d'accord. Hein.
Ouais, c'est pas grave, mais tant
Il
qu'on
faudrait tu as un
s'arrive.
moyen de sélectionner tous ces commentaires, de faire un copier-coller, de m'envoyer ça par mail. Ça se sélectionne, ça.
Ouais,
On
je
fera une
sais pas
autre.
comment faire en fait. Ne bouge pas. Ah oui. Ouais,
Bon, on
je sais
verra.
pas. Je vais essayer. Je sais que
Ok.
sur YouTube, ça, ils n'apparaissent pas forcément sur YouTube. C'est bizarre. Bon. Écoute.
Ah, tu m'enverras le lien vers un replay que je signale notre conversation
Oui,
sur
bien
la page.
sûr. Je vais tout de suite. Ça va prendre 10 minutes le temps de se mettre en place. Et je t'envoie
Ça
ça
fait là. Ok.
par Messenger. D'accord? Merci, camarade de lutte.
Salut Jean-Christophe,
Je te
merci pour
salue.
tout.
Et
Ciao, ciao.
Voilà, on défend ce qui nous semble bon.
Voilà, fais ce que tu dois et advienne que pourra.
Exact. Sur ces paroles, je vous salue.
Salut
Merci
à
à tout le
tous.
monde.
Ciao,
Merci
ciao.
Étienne. Merci beaucoup.
Ciao.
Ciao.